Justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, enfance sur RLP 102.3. Un nouveau direct aujourd'hui depuis les studios de Chamiers. Famille, Justice, enfance avec Stéphane, votre émission sur la famille occidentale contemporaine. La famille et tout ce qui va autour de l'enfance, de l'éducation et aujourd'hui de l'accompagnement scolaire des enfants malades. Nous sommes avec ASEM 24 Renouer le fil, nous sommes avec Françoise Mandon, la présidente, nous sommes avec Guy Mandon, un des enseignants, ex-inspecteur général de l'éducation nationale et qui enseigne l'histoire dans l'ASEM 24 Renouer le fil, et Françoise qui a fait toute sa carrière d'enseignante. Et bonjour Françoise.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous nos éditeurs.
Oui, bon, vous allez bien, ça va ?
Très bien.
Très bien, très bien. Guy, bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Bon, bonsoir. Alors, écoutez, on va démarrer de manière extrêmement simple. Qu'est-ce que la SEM 24, Renouer le fil ? Là, j'ai donné quelques petits éléments en préambule, mais dites-nous, en fait, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, de quoi s'agit-il ?
La SEM 24 est une association de bénévoles qui a été créée en 2005 pour répondre à des besoins spécifiques. Les besoins d'enfants qui, au départ, étaient atteints de maladies diverses ou qui étaient accidentés et dont le suivi scolaire n'était plus assuré pendant des périodes très variables. Les enseignants de cette association, donc bénévole, intervenaient beaucoup à l'hôpital. Lorsque l'hôpital de Périgueux accueillait encore des enfants en long séjour. Et peu à peu, Bordeaux, Limoges se sont chargés de ces enfants et désormais ne sont plus à l'hôpital que des enfants en très court séjour. Donc, notre mission première n'est plus assurée. Mais beaucoup de familles aujourd'hui rencontrent une difficulté récente qu'on appelle la phobie scolaire. Phobie qui très souvent fait suite au harcèlement ou à des difficultés familiales et font appel à nous parce que leurs enfants ne parviennent plus à franchir les grilles de leur établissement scolaire.
Donc pour simplifier, la SEM 24, c'est une association pour les enfants qui ne sont pas scolarisés de manière traditionnelle. C'est une association avec des enseignants qui vont fournir ce suivi scolaire, soit qu'ils soient en milieu hospitalier, soit qu'ils soient chez eux, en tout cas des enfants qui n'ont pas un parcours classique, c'est bien ça ?
Oui, à ceci près que nous n'intervenons plus aujourd'hui à l'hôpital de Périgueux. Oui. Mais d'autres associations semblables à la nôtre et qui dépendent toutes de la Fédération des enfants malades dont le siège est à Paris, interviennent par exemple à Paris ou à Toulouse, dans les grandes villes dont les CHU accueillent des enfants atteints de leucémie, par exemple, ces associations-là peuvent évidemment intervenir en milieu hospitalier.
D'accord.
Alors, jusqu'à récemment, nous nous rendions à Bergerac.
Oui, on y expliquait qu'il y avait aussi des choses à Bergerac.
Dans une unité dédiée à des enfants atteints de différents troubles d'ordre psy. Mais les psychiatres nous ont expliqué que leur dernier patient n'était pas en état de suivre des cours parce qu'en général, il relevait de pathologies un peu plus lourdes et surtout subissait des thérapies qui les fatiguaient beaucoup.
Donc en fait, vous avez un rayon d'action qui est sur le Périgord, on va dire, enfin
oui.
Périgueux-Bergerac, parce qu'il y a effectivement un centre psychiatrique pour enfants et adolescents à Bergerac.
Une unité,
oui, tout à fait. Oui. Et donc vous êtes, alors on va dire, hein, j'ai pris des petites notes, hein, je regarde mes antisèches. Donc à SEM24, c'est quelques dizaines, effectivement, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est un bon effectif d'enseignants, mais vous recrutez, parce qu'on peut lancer un appel ici, on le redira en fin
c'est
d'émission.
C'est très important.
Oui, tout à fait.
Très important, parce que depuis peu, beaucoup de collèges et de lycées nous sollicitent, sachant que la phobie scolaire peut être partielle, totale, s'accompagner d'une phobie sociale ou non. C'est-à-dire que certains enfants parviennent à être scolarisés, mais pratiquent ce que je nomme une déscolarisation perlée, c'est-à-dire se rendre à l'école une semaine sur deux, un jour sur six, ne sont pas suffisamment constants pour pouvoir passer des examens, par exemple. Les psychologues, les médecins qui interviennent dans ces établissements font appel à nous.
D'accord. Donc effectivement, on l'a défini pour qui ça a été l'association, qui était le cadre, donc ce sont les enfants dont on a parlé. On a dit avec qui, ce sont des équipes d'enseignants bénévoles, la plupart du temps d'éducation nationale.
Généralement,
on avait expliqué, parce qu'on s'est rencontrés au forum des associations en septembre dernier, donc on a mis un petit peu de temps à formaliser tout ça, mais on s'est rencontrés en faisant la queue devant un food truck, et comme quoi le food truck mène à tout. Ça nous permet de discuter entre nous d'ailleurs. Voilà. Et bien, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient retraités et qui venaient donner, après la fin de leur carrière, qui venaient donner du temps.
Il est très difficile aujourd'hui de faire appel à des enseignants encore en activité.
Ils n'ont pas forcément le temps.
Il
y a une charge. On dit toujours que l'enseignant n'a pas beaucoup d'heures de présence physique dans l'école, mais il faut voir tout ce qu'il y a autour. On va aussi débunker un peu ce mythe, hein, quand vous êtes utilisé au maximum de vos heures d'affectation, je ne sais pas si vous avez le temps de prendre des choses complémentaires.
Les difficultés aujourd'hui sont nombreuses. Beaucoup d'enfants sont quand même relativement récalcitrants, c'est ce que l'on entend. Les enseignants nous disent qu'ils sont usés.
Même ici dans le Périgord ?
Même ici.
D'accord. Ouais. J'ai entendu des histoires qui viennent d'Île-de-France avec des filets de protection au-dessus des cours, avec des trucs très 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 différents de mon époque à moi. Visiblement ici, ok. On parle aussi de ressources humaines dans une autre émission ici, et effectivement, l'entrée dans le monde du travail reflète parfois aussi ce qu'on a vécu dans le monde de la scolarité, et c'est un reflet aussi de la société, quelque part. Hein. Alors, comment là, je vois sur votre... Il y a un joli prospectus qui est là. Donc, la demande est faite par la famille. Alors, comment ça se passe?
Oui, parce que...
Voilà, j'ai un enfant, là...
Ces enfants ne sont pas majeurs.
Oui, ils ne viennent pas par eux-mêmes vous voir.
Ils viennent... généralement accompagnés, soit à la demande des familles, soit à la demande... Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu une famille qui venait à la demande du proviseur de l'établissement dans lequel était scolarisée la jeune fille. Parce que, alors c'est à souligner, nous nous plaignons tout à l'heure des difficultés que rencontrent les enseignants, mais il semble qu'il soit remarquablement accompagné en Dordogne. C'est-à-dire que l'inspection académique est des services très efficaces qui proposent aujourd'hui des horaires aménagés, des salles dans lesquelles les enfants peuvent se calmer. Tout est entrepris et il semble qu'en Dordogne plus qu'ailleurs pour que ces enfants... éprouve un certain bien-être à l'école, mais il n'est pas toujours possible de parvenir à ce résultat. C'est alors qu'ils font appel à nous.
D'accord. Donc, il y a une rencontre avec les parents, les enfants.
Oui.
Il y a des conditions ?
Alors, nos statuts nous imposent... de ne recourir d'abord qu'à des enseignants qui sont habilités, qui ont suivi un cursus leur permettant de suivre les enfants. Nous demandons aussi un extrait de casier judiciaire.
Aux enfants ?
Je parle des enseignants.
Oui, bien sûr. D'accord, pardon, je ne comprenais plus.
Premier
d'accord,
point.
D'accord, ok,
ensuite,
bien sûr.
Pour les enfants, le certificat scolaire, le certificat médical,
oui.
Et 30 euros qui sont la deuxième, qui correspond à la deuxième condition d'entrée dans
d'accord.
30 euros annuels.
Petite question.
D'adhésion.
Petite question. On parle ici de temps en temps, parfois, d'éducation à domicile.
Oui.
Notamment des familles qui disent qu'il est difficile d'élever les enfants à domicile, de faire l'enseignement scolaire à domicile. Est-ce que ça rentre dans votre cadre ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous sollicitent pour ça ?
Exceptionnellement.
Exceptionnellement.
Non pas que nous ne soyons pas sollicités, c'est plutôt parce que je me refuse à cela. Un enfant ne peut s'épanouir qu'au milieu des autres. C'est indispensable. Alors, quand il est atteint de phobie scolaire, il faut l'aider. Et c'est pourquoi je tiens à l'expression « renouer le fil ». Il faut l'aider en lui redonnant le goût, d'abord du rapport à l'autre, en lui redonnant le goût du savoir et en restaurant l'estime de soi. Afin qu'il retrouve les siens, parce qu'il ne peut grandir encore une fois et s'épanouir que parmi d'autres. Cependant, mon discours avec le temps a un peu changé. C'est ce que je disais aux enfants que je recevais, aux élèves que je recevais. Je ne leur parlais que de leur future réintégration. Et aujourd'hui, j'évoque aussi une alternative, parce que je me rends compte que certains d'entre eux ne retourneront jamais ni dans leur établissement, ni dans un autre. Donc,
pourquoi ?
Ce qui me semble essentiel, parce que la phobie scolaire s'accompagne aussi de phobie sociale.
D'accord.
Et que nous ne sommes pas à même de traiter ces mots. Et désormais, je leur dis que l'essentiel est de parvenir aux examens qui leur permettront par la suite de répondre à leur désir d'entrer dans la voie qui correspond à ce qu'ils sont, à ce qu'ils recherchent.
J'entends plein de choses dans ce que vous me dites. J'entends déjà une chose essentielle et fondamentale, c'est que c'est beaucoup plus que de l'enseignement pur. Dans ce que vous me dites, là, il y a quasiment un aspect de réinsertion et de suivi thérapeute et de coaching. On est presque proche de la psychologie. Vous avez été enseignante en salle de classe traditionnelle.
J'étais professeur de philosophie.
Ah, donc vous avez un contenu aussi par rapport à l'environnement. Et vous voyez où je veux en venir. Dans ce que vous venez de m'expliquer, vous êtes au-delà de la transmission pure du savoir.
Oui.
Vous êtes aussi dans la personnalisation, vous êtes aussi dans l'accompagnement, dans la perception du futur. C'est beaucoup plus large.
Disons que nous avons une écoute particulière et qu'avec le temps, nous devenons aussi plus modestes dans nos exigences.
Oui,
nos exigences ont changé. La souffrance est telle chez ces enfants, je vais vous donner un exemple, que certains d'entre eux n'arrivent pas, alors que je les ai rencontrés une première fois, ils sont venus dans nos locaux situés cours Fénelon à la maison des associations.
Voilà, qu'on salue d'ailleurs.
Ils sont venus, tout à fait, ils sont venus avec leurs parents et lorsque le premier cours doit commencer, ils ne parviennent pas à sortir de la voiture. C'est ce qui est arrivé avant-hier à un élève pourtant très souriant, qui me semblait moins en souffrance que d'autres. Sa maman a voulu lui permettre de descendre de la voiture devant les locaux.
Non,
et
je
ne
veux pas aller
parvenu.
À l'école, je ne veux pas y aller.
Ce n'est pas en ces termes.
Non.
Et vous faites bien de les employer, parce
non,
que je les ai employés au
bien
départ.
Bien sûr, bien sûr. Oui.
Un jour, malencontreusement, j'ai parlé de désir devant une collégienne qui ne parvenait pas à franchir la grille de l'école. Et elle m'a reprise, à juste titre, elle m'a dit non, ce n'est pas une question de désir, je ne peux pas. Et ça a été une leçon. Depuis, je ne parle plus de désir.
D'accord. Donc effectivement, on voit qu'on est bien au-delà de la transmission pure du savoir. Il y a aussi une contextualisation, il y a une personnalisation, il y a une réflexion aussi.
Les cours sont,
aussi.
Sont individuels.
Les cours sont individuels, effectivement. Mais peut-être qu'un jour, si jamais on va au bout du processus, il y aura un accompagnement plus que purement scolaire qui se mettra en place. Et deuxième chose que j'entends, c'est que, encore une fois, quand la société civile, l'État en fait, est défaillant, eh ben, ce sont des bénévoles qui viennent et qui répondent et puis qui bouchent les trous. Voilà, hein, c'est un peu souvent, je suis obligé d'entendre ça aussi, hein, je le constate aussi
oui,
très souvent.
Oui, mais je réitère, beaucoup de dispositifs sont mis en place par l'éducation nationale, au moins, alors je n'ai pas une expérience suffisamment étendue pour savoir ce qui se passe ailleurs, mais de plus en plus, je suis étonnée de ce que je vois en Dordogne.
Oui, ça c'est bien, mais je veux dire par là que est-ce que c'est au restaurant du cœur de s'occuper de certaines choses, tous ces parents d'enfants handicapés, d'autistes et autres qui montent chacun les associations, soutien, d'entraide et autres, est-ce que c'est à eux de le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais je le vois aussi qui se déplique et qui se met à différents endroits lorsqu'on sort du cadre, lorsqu'on n'est plus dans la grande généralité. On voit très souvent des gens de bonnes intentions se mettre ensemble pour pallier à des déficiences. Moi j'entends ça aussi, si vous voulez, quand j'entends certaines choses. Guy, Guy Mandon, qui a été à l'inspection générale de l'éducation nationale durant très longtemps, qui est enseignant, vous avez fait carrière dans l'éducation nationale, est-ce qu'il y a plus d'enfants aujourd'hui qu'il y a un certain temps qui sont concernés par ce genre de phénomène?
Alors, attention, j'ai quitté l'éducation nationale il y a 20 ans.
D'accord.
Mais ce phénomène commençait à se produire.
D'accord.
Alors, moi, si vous voulez, par rapport à ce qui a été exposé ici, j'ai, en tant qu'inspecteur général, au fond, deux remarques essentielles. La première, c'est que je suis très heureux d'entendre dire que l'éducation nationale fait son boulot en déployant des énergies pour traiter ce type de cas. Et la deuxième, évidemment, c'est qu'il est très important qu'il y ait des associations comme la SEM, et c'est la conjugaison des deux qui peut nous tirer d'un mal qui va croissant, qui est celui, effectivement, du refus devant la chose scolaire.
D'accord.
De sorte que, à ce point de vue, on ne sait pas vraiment où l'on va.
Alors, j'ai deux questions pour vous. C'est marrant, aujourd'hui, tout vient par deux, là. La première, si vous avez été à l'inspection générale, si vous avez eu vraiment un aperçu du mode de fonctionnement de l'éducation nationale, des gens qui y étaient, parce que vous étiez pas forcément simplement en train d'enseigner, mais vous étiez en train de passer d'une structure à l'autre et de voir tout le mécanisme et la machinerie dans son ensemble.
La fonction de l'inspection générale.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est une administration qui fait ce qu'elle peut, avec beaucoup de gens qui... c'est un beau métier, être enseignant, tuteur, c'est un beau métier. Vous avez fait ça durant longtemps, vous avez commencé en quelle année? Vous avez fini il y a une vingtaine d'années, vous m'avez dit.
Comment?
Vous avez commencé il y a longtemps, vous avez terminé en... Dans les années 2000, vous m'avez expliqué,
j'ai été inspecteur général entre 2000 et 2010.
D'accord, ok. Et vous étiez déjà dans l'éducation nationale avant?
Comment?
Oui. Vous étiez déjà...
j'ai enseigné de toute façon depuis l'âge de 21 ans.
Alors, qu'est-ce qui a changé?
Écoutez, je vais vous dire... ce qui a changé, c'est probablement le regard et la fonction du professeur.
Le statut social? Non.
Il n'y a pas que ça.
C'est
Il n'y a pas que ça. Mais si vous voulez, si vous prenez le profil d'un professeur de 1970 et le profil d'un professeur des années 2000, beaucoup de choses ont changé. En bien et en mal. C'est-à-dire que le professeur des années 70 arrive en classe, cravaté, envesté et tout le reste. Bon.
Il symbolise quelque chose de l'époque.
Voilà, qui symbolise quelque chose de l'autorité.
D'accord.
Et les rapports qui s'en suivent sont évidemment différents. Le professeur des années 2000 n'a pas perdu l'autorité. Moi, j'ai vu des professeurs de très grand niveau. J'ai assisté à des cours, pour tout vous dire, je me disais, j'aurais sûrement pas fait aussi bien que lui. Donc effectivement, mais à côté de cela, il y a une masse de jeunes adultes qui entrent dans l'enseignement avec une vision de l'enfant qui est totalement différente. Et c'est cette vision de l'enfant qui entretient effectivement un rapport d'autorité qui est complètement différent.
D'accord. Vous pensez que la grosse différence entre l'éducation nationale d'aujourd'hui et celle d'il y a 30 ou 40 ans se base beaucoup sur des questions de rapport à l'autorité ?
Il faut faire attention.
Bien sûr, c'est pour ça que je prends des guillemets et que j'essaye de...
D'accord. Vous avez pleinement raison. Vous avez pleinement raison. Il faut faire attention à ce qu'on définit par autorité.
Oui.
Parce que ça devient très dangereux.
Oui, il y a plusieurs définitions à l'autorité.
L'autorité, en réalité, résulte.
L'autorité, ce n'est pas que la discipline, c'est aussi le savoir et le statut.
En fait, elle résulte du langage qui est tenu par le professeur, du langage qui cadre avec les attentes, du langage dans lequel les élèves se retrouvent et ont le sentiment qu'ils avancent. C'est ça le vrai rapport.
Le niveau qu'on a et la façon de le porter.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Et c'est très important parce que certains professeurs croient, bon, on peut y penser aussi, croient effectivement qu'il faut totalement détruire la relation, enfin détruire, modifier la relation que l'on a, excusez-moi, je parle mal,
je vous en prie,
que l'on a avec les jeunes, en particulier un exemple entre mille, la notion par exemple de tutoiement. Certains professeurs.
Je n'aurais jamais tutoyé un enseignant et je n'aurais pas aimé du tout qu'il me tutoie.
Ben oui, écoutez, hier soir.
Mais je suis d'une autre génération, voilà.
Hier soir, je lisais un bouquin qui était l'histoire.
Ah, sauf en cours individuel, peut-être, pardon.
L'histoire d'une jeune enseignante. La première chose qu'elle dit en entrant dans la classe, je m'appelle une telle, c'est-à-dire son prénom, vous m'appelez aussi par mon prénom, et moi je vous tutoie, et vous je vous tutoie.
Bien sûr. Et t'as qu'à rentrer dans la salle de classe et faire les règles aussi pendant que tu y es. Hein. Allons-y, hein. Non mais bon.
Voilà.
Bon, Françoise Mandron, oui, j'ai lancé ma petite blague, là, allez-y, réagissez.
J'ai envie d'aller même un peu plus loin.
Oui.
C'est un nivellement qui atteint toute la société. Cette absence de hiérarchie existe à tout niveau et particulièrement au niveau familial.
Ah, mais il y a peut-être une corrélation avec le fait que la famille traditionnelle est beaucoup moins stable, moins présente, et qu'il y a aussi, je ne sais pas, j'en sais rien, moi j'ai entendu ça ici, hein, certaines personnes m'ont dit, le fait d'avoir des familles monoparentales ou recomposées, ou qui évoluent dans le temps, ont fait que le rapport à l'autorité, beaucoup de petits délinquants sont des enfants sans père par exemple, hein, qui n'ont pas été élevés par leur père, ça c'était démontré plusieurs fois, je ne sais pas quelle est la corrélation entre le type... J'ai des auteurs ici qui m'ont dit qu'il y a une corrélation entre le type de famille et le type de société. C'est du Emmanuel Todd, hein, quasiment. Mmh. Hein. Mais peut-être qu'on peut retrouver certaines choses dans la famille et dans l'école.
Absolument. C'est encore une fois ce que j'ai nommé le nivellement des rapports. On peut aussi le traduire par une horizontalité, en fait. Là où était en place une verticalité, l'horizontalité a remplacé ce premier mouvement, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les enfants manquent considérablement d'exemples ou d'éléments qui leur permettraient de se hausser, c'est-à-dire de grandir.
Bien sûr. Vous voyez qu'on est bien au-delà de la pure transmission d'informations.
Je ne le nie pas, mais je tiens quand même à souligner que nous ne nous substituons jamais au sein de l'association aux spécialistes que sont les psychologues.
Oui. De toute façon, les parents ne veulent pas que l'éducation nationale prenne non plus. Enfin, une partie des parents ne souhaite pas qu'il y ait trop d'intrusion dans la partie d'éducation qui normalement devrait être réservée aux parents.
Alors, quand il y a souffrance, je me rends compte qu'ils sont prêts à faire appel à tous.
Bien sûr. Et là, on va en parler. Parce que vous me disiez que, justement, la façon dont vous pouviez accompagner les enfants qui étaient hospitalisés et autres avait bien évolué en quelques années et qu'il y avait quand même quelques soucis et quelques manques qui apparaissaient.
Alors, elle a évolué en ce qu'aujourd'hui, donc je l'ai souligné d'emblée, nous n'avons plus que des enfants atteints de troubles psy. Il n'est plus question de l'enfant dont la jambe est
plastrée. Voilà, parce qu'ils sont plus ici, donc
reste,
voilà, je m'en public. Donc là, vous,
et qui reste chez lui, même, parce que cet enfant ira dans son établissement scolaire, ses parents le conduiront, il pourra reprendre les cours, alors que jadis, il était possible de se rendre au domicile de ce jeune. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous n'allons plus ou presque plus au domicile des enfants, sauf lorsqu'ils sont en fauteuil roulant, par exemple. D'accord. Et pour revenir à ceux qui, aujourd'hui, nous prennent notre temps, notre énergie, sans que nous n'ayons toujours la solution. Tout à l'heure, on a oublié d'en parler, mais c'est important. Ce sont aussi beaucoup d'enfants qui jouent aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, et qui sont en permanence sur les réseaux sociaux avec le danger. Je ne regrette
ici,
pas l'avènement des réseaux sociaux. Je les utilise aussi mais pour le meilleur.
Bien sûr.
Alors que très souvent, ils donnent lieu à des épisodes de harcèlement qui sont traumatisants pour des jeunes filles de 12-13 ans. Et à l'origine de ce mal-être...
Mais Internet est un lieu dangereux. On ne le dira jamais assez aux parents. Vous ne laissez pas vos enfants en pyjama seuls la nuit dans la cour de l'immeuble. Vous ne laissez pas vos enfants tout seuls sur les réseaux sociaux parler à tout le monde. Ça, c'est le béaba. Je veux dire, quand on lutte contre les réseaux, différents phénomènes et autres, on passe un temps avec son enfant sur les réseaux, mais on ne lâche pas son gosse, son gamin, dans l'inconnu et le monde. Ça ne se fait pas, ça. C'est dangereux.
Oui, les parents ne peuvent pas non plus être sans cesse aux côtés de leurs enfants.
Alors, il
n'y
a pas les réseaux, voilà. Passons.
Il est difficile d'en arriver là, j'avoue, ne pas avoir...
J'enverrai les auditeurs. On a fait plusieurs émissions sur le sujet avec des personnes qui ont travaillé sur cela. L'Internet est un lieu dangereux et on ne laisse pas ses enfants tout seuls sur Internet. La télévision est plus ou moins filtrée, par contre, sur le net. Vous créez un profil YouTube ou Facebook d'un enfant de 8 à 9 ans, un faux profil, vous avez des choses innommables qui arrivent en quelques heures. C'est comme
alors,
ça.
Alors, voilà pour les réseaux sociaux, voilà. Mais les jeux vidéo
aussi.
Sont aussi à l'origine de bon nombre de troubles. Très souvent, les enfants que nous suivons ne peuvent pas venir le matin parce qu'ils jouent la nuit et dorment le matin. Donc, nous devons les recevoir l'après-midi.
Ah d'accord, très bien. Bon, ça, rien que ça, ça mériterait une émission, une intervention, mais on n'aura pas le temps. Par contre, vous allez voir qu'un jour, vous allez avoir des psychologues qui vont vous rejoindre pour personnaliser les suivis, parce que beaucoup de choses que j'entends, on s'en rapproche énormément. L'éducatif, la psychologie, le soutien.
Alors, la plupart de nos élèves sont suivis par des psychologues.
Oui. Et vous avez bossé avec eux, je pense. Vous voyez, le rapprochement de ce que vous faites avec ces gens-là.
Ce sont eux,
très clairement,
bien souvent, qui conseillent les familles et qui nous les envoie.
Okay.
Donc, effectivement, ce rapport est très, très important.
Oui, tout à fait. Et puis, quand je vous écoute et quand je lis, ça me paraît essentiel, tout à fait. Françoise Mandon, Guy Mandon, ASEM24, Renouer le fil, comment est-ce qu'on vous trouve ?
Grâce aux flyers, mais surtout grâce aux professionnels que sont les proviseurs, les psychologues, les médecins. Nous avons distribué un peu partout des affiches et ces fameux flyers dont vous avez un exemple sous les yeux.
ASEM, ASEM24, vous trouverez ça sur Internet assez facilement. Guy, merci d'être venu.
Merci.
François, merci d'être venu.
Merci.
À tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.